Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des inondations dramatiques dans l'Aude. 3 morts emportés par des crues. Les routes sont coupées autour de Carcassonne. Le niveau de l'eau est monté de plusieurs mètres. Le département est en vigilance rouge. Nous serons sur place dans un instant. Un élève sur 5 en CP ne sait pas bien reconnaître les lettres et les sons. Résultat des évaluations de la rentrée dans les écoles, elles font débat. Accusé par certains de servir à un projet de loi qui vient d'être ficelé par le ministre de l'Éducation. Explication avec Sonia Bourane. Le budget à l'Assemblée, ça commence aujourd'hui. Reportage dans ce journal dans l'antre de Bercy qui fait tourner la machine. C'est la direction du Trésor. La place de l'islam politique en Seine-Saint-Denis, ce sera l'objet de votre grand entretien, Nicolas.
Et oui, c'est le thème du nouveau livre coordonné par Gérard Davé et Fabrice Lhomme, Inch'Allah, aux éditions Fayard. Intervenez au 01 45 24 7000.
À la une également, les compteurs Linky peuvent-ils causer des incendies? Les nationalistes ukrainiens qui demandent au peuple fidèle à Moscou de partir. Et puis creuser ou avoir un pistolet chargé. Il était une fois Sergio Leone, ambiance western spaghetti à la Cinémathèque.
France Inter.
Après le Var la semaine dernière, c'est l'Aude qui subit un déluge. Depuis quelques heures, il sera tombé l'équivalent de 3 à 4 mois de pluie cette nuit. Et dans la matinée, il y a déjà 3 morts à Lingastal. Vous êtes coincé à la sortie de Carcassonne. Où précisément et que voyez-vous, Alain?
Alors, je suis au carrefour qui mène du côté droit vers Minervois et du côté gauche vers Conques-sur-Orbiel et toute la vallée de l'Orbiel. C'est un carrefour qui est entièrement coincé. On ne peut faire que demi-tour et revenir par Carcassonne, coincé par des camions de pompiers qui sont arrivés vers 6h du matin pour empêcher tout automobiliste de tenter de rejoindre soit le Minervois, soit la vallée de l'Orbiel, car tout simplement, les routes sont entièrement coupées. Certaines routes auraient même, disent des pompiers, été emportées par l'eau qui dévale depuis les collines et qui a tendance à emporter tout sur son passage. Les pompiers avec qui je viens de parler, qui me disent qu'ils ont sauvé il y a quelques minutes une personne du côté de Villadier, qui avait été emportée avec sa voiture par les eaux et qui finalement a pu être sauvée in extremis par les pompiers. C'est une situation assez grave dans ces villages où l'on sait que les vallées sont encaissées, les rivières ne sont pas très importantes et leurs lits de très vite et les eaux qui ruissellent sont vraiment extrêmement fortes et extrêmement violentes.
Et la pluie continue de tomber, Alain?
Oui, il pleut depuis hier sans interruption et il continue de pleuvoir très très fort avec des flaques d'eau qui gagnent maintenant du côté de Carcassonne. On a encore la possibilité de rouler sur l'autoroute en étant prudent parce qu'on fait aussi de l'aquaplaning. Dès qu'on sort de l'autoroute, c'est extrêmement dangereux parce que le moindre creux, le moindre dévers devient vraiment un piège mortel pour les voitures qui peuvent être emportées car les eaux, je vous le répète, ruissellent vraiment très très fort depuis les collines.
Alain Gastal en direct de Carcassonne. De nombreuses routes, vous l'avez dit, sont coupées dans l'eau. D'éviter tout déplacement, demande la préfecture qui a suspendu les transports scolaires dans l'agglomération de Carcassonne. Joseph est coincé dans cette ville de Carcassonne. Il s'inquiète pour sa famille qui habite à quelques kilomètres.
À 4h du matin, mon beau-père m'a téléphoné pour nous dire que chez lui, ça avait été inondé. Déjà à 4h du matin, il y avait 1,50 m d'eau dans le terrain à la maison. Et puis à 5h30, 6h, il ne voyait plus le toit du fourgon. La caravane a été emportée, elle est engloutie. Et une voiture aussi elle est partie et le fourgon aussi travaille. Bon, maintenant on a réussi à les avoir au portable, donc ça va bien, mais ils sont toujours dans la même situation, quoi. L'eau est montée aux escaliers jusqu'au premier étage. Et il reste que 3 marches pour qu'ils puissent arriver à les atteindre.
Voilà, l'Aude dans une situation très compliquée, en alerte rouge. 6 autres départements sont en vigilance orange. L'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Il est 8h04 dans la série La Grande Déprime de l'Éducation nationale.
On n'avait pour l'instant que des études internationales pour dire le piètre niveau des élèves français. La dernière en 2016 classait nos petits écoliers 34e sur 50. Mais qu'est-ce qui cloche? Quels sont les apprentissages qui pêchent? Pour le savoir, le ministre de l'Éducation a lancé des évaluations controversées dès le début de l'année. Bonjour Sonia Bourane.
Bonjour.
En CE1, un élève sur deux a des difficultés en calcul mental. C'est l'un des résultats de ces évaluations publiées aujourd'hui.
Oui, selon ces résultats provisoires, 23% des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et les sons qu'elles produisent et 8% à reconnaître les nombres dictés. En CE1, le niveau est alarmant également, vous le disiez, en calcul mental, mais aussi en lecture. Un tiers des élèves lisent moins de 30 mots par minute, alors que l'objectif national est de 50 mots. Les syndicats avaient fortement critiqué ces évaluations, pas adaptées à des petits sortant de la maternelle qui ne maîtrisent pas la lecture, des évaluations stressantes pour les élèves, mais le ministre ne les remet pas du tout en cause. Il explique ses retards notamment par des difficultés sociales et familiales.
Et justement, Sonia, ces résultats tombent alors qu'une loi Blanquer sur l'école est présentée aujourd'hui au Conseil supérieur de l'éducation.
Ce projet de loi était prévu au départ pour rendre l'instruction obligatoire à 3 ans, promesse d'Emmanuel Macron, mais en réalité, ce texte habilement intitulé « Loi pour une école de la confiance » permet à Jean-Michel Blanquer de passer en force sur une dizaine de sujets, la formation des enseignants par exemple, le remplacement d'un conseil d'évaluation jusque-là indépendant par une agence de l'évaluation qui sera sous sa coupe, un projet de loi fourre-tout qui a braqué ces derniers jours tous les syndicats, y compris les réformateurs comme le SEUNSA. Mais le secrétaire général Stéphane Crochet n'est pas dupe du moment choisi pour publier les résultats des évaluations. Il était interrogé par nos collègues de France Info.
C'est bien un coup de communication, c'est un coup politique. Le ministre, ce matin, va présenter un projet de loi de transformation de l'école. Et ses résultats tombent à point nommé pour justifier la nécessité de modifier le système éducatif. Là, comme ça, avec un effet tout de même de sidération pour la communauté éducative.
Pour preuve que ce calendrier est soigneusement choisi, le cabinet du ministre nous avait promis les résultats de ces évaluations pour la fin de cette semaine. Un coup d'accélérateur opportun pour faire oublier le projet de loi si contesté.
Sonia Bourane, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter.
La politique en ce début de semaine, Florence, en attendant toujours le remaniement, c'est le budget disséqué à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui.
C'est un marathon qui va durer jusqu'à Noël pour les députés. Comment ventiler l'argent public avec une dette de 2 300 milliards d'euros, 99% du PIB, alourdi cette année par l'ardoise de la SNCF. Au quotidien, c'est à Bercy qu'elle se gère, cette dette. Bienvenue à la Direction Générale du Trésor, service très fermé, qui a accueilli Kevin Baudreau pour France Inter.
9e étage du bâtiment Colbert, au cœur du ministère de l'Économie et des Finances. Ici, une quarantaine de personnes analysent, décortiquent la santé financière de l'État français.
C'est-à-dire faire en sorte que chaque jour, l'État puisse payer l'ensemble de ses dépenses, depuis les fonctionnaires, les grands investissements publics, et alimenter l'ensemble des besoins des administrations de l'État.
Bertrand Dumont, directeur général adjoint du Trésor.
Dans ces 40 personnes, vous en avez certains qui sont en charge de la gestion de la trésorerie, certains qui sont plutôt en charge de l'émission de la dette. Vous avez aussi des économistes, des spécialistes de marché qui regardent l'évolution des marchés financiers, la façon dont est traitée chaque jour la dette de l'État.
Je vois des séries de chiffres assez impressionnantes là.
Les flux quotidiens sur le compte du Trésor, c'est 20 milliards d'euros par jour. C'est des montants importants, ce qui évidemment demande beaucoup de rigueur, beaucoup de technicité pour être certain qu'en permanence, l'équilibre du compte est assuré.
Et que le solde soit toujours positif à la fin de la journée, quitte à contracter de nouvelles obligations.
La dette française s'est accrue au fil des années, notamment avec un événement majeur qui a été la crise de 2008, qui a conduit la France, comme l'ensemble des grands États, à accroître son endettement. Aujourd'hui, la dette française est stabilisée.
Stable avec des taux de remboursement très bas, mais une dette qui devrait bien atteindre les 100% du produit intérieur brut en 2019.
Dans la guerre LR des Alpes-Maritimes, nouvel accrochage entre Éric Ciotti et Christian Estrosi. C'est Ciotti qui a remporté la présidence de la fédération locale ce week-end. Mais les proches du maire de Nice, son rival, dénoncent des fraudes massives. Il peut y avoir des mauvais perdants, rétorque le nouveau patron de la fédération. L'ancien patron de Lafarge, la Syrie et la justice, c'est une information France Inter. Ce matin, en enquêtant sur le possible financement de groupes terroristes en Syrie, les juges d'instruction du parquet de Paris ont fait saisir une partie de son parachute doré, Sarah Guibaudot.
Les juges d'instruction ont dû éplucher les comptes bancaires de Bruno Lafont pour constater qu'il avait reçu en 2015 près de 9 millions d'euros de Lafarge. Ce montant inclut son indemnité de départ et une prime pour avoir mené la fusion avec le Suisse Holcim. Les juges en ont fait saisir une partie, 2,5 millions d'euros. C'est une saisie conservatoire pour éviter la disparition des fonds, dans l'hypothèse où un tribunal prononcerait, outre une éventuelle peine de prison ou d'amende, une peine de confiscation d'une partie des biens, ce qui est possible en cas de financement du terrorisme. L'argent est affecté au fonds de garantie qui indemnise les victimes. En ajoutant les indemnités de départ de 3 anciens cadres, anciens directeurs de zone ou de la filiale syrienne, ces saisies s'élèvent au total à 3,7 millions d'euros. Le parquet de Paris a donné un avis favorable. C'est de la démagogie, dénonce au contraire un avocat de la défense. France. Mon client a déjà versé une caution. Là, on lui prend sa prime de fin de carrière, qui n'est pas une prime pour ce qu'il a fait en Syrie. Les quatre mises en examen concernées ont fait appel.
Voilà. Trois autres anciens cadres ou dirigeants sont donc aussi saisis d'une partie de leurs indemnités par la justice.
Il est 8h10 et voilà de quoi alimenter les craintes des anti-compteurs Linky.
Une nouvelle question se pose après l'incendie ce week-end d'une maison du Loiret qui aurait pris feu après un court-circuit de son compteur installé récemment. C'est le diagnostic de la police de la commune. Alors ces compteurs Linky qui équipent 11 millions de foyers peuvent-ils provoquer des incendies? C'est probable, selon le conseiller municipal de Saint-Macaire, en Gironde, Stéphane Lhomme, anti-Linky de la première heure.
La grande majorité des logements en France ont des installations électriques qui datent de 20-30 ans ou voire beaucoup plus. Et à ce moment-là, eh bien, la pose du Linky qui est faite automatiquement et sans vérifier l'adéquation du système électrique, eh bien, peut faire en sorte que dans les fils électriques de votre logement, on passe un courant qui ne va pas être supporté. Ça peut être le cas d'un mauvais montage parce que on a affaire à des sociétés privées, des sous-traitants formés très vite et qui doivent installer le plus possible de compteurs Linky pour avoir des bonus financiers. Donc c'est souvent très mal fait, des fils sont inversés, etc. Donc là, ça peut générer des incendies avec éventuellement des conséquences très graves.
Voilà Stéphane Lhomme avec Laurent Kramer. Un compteur électrique ne peut pas exploser ni prendre feu spontanément, assure l'opérateur Enedis. Revers bavarois pour la majorité d'Angela Merkel en Allemagne. Ses alliés de la CSU font un score historiquement bas dans ce land le plus riche du pays. 37% des voix tout de même. Les écologistes arrivent second avec presque 18% des voix, ce qui est assez spectaculaire. L'AFD, le parti d'extrême droite, réalise une percée à 10%, un score plus faible que ce qu'attendait cette droite anti-Merkel et anti-migrants.
Et l'analyse de Pierre Aski, juste après ce journal.
Et puis, ça n'est pas cette semaine que Bruxelles et Londres trouveront un accord sur le Brexit. Des discussions de dernière minute avant le sommet européen d'après-demain ont capoté hier soir. À moins de 6 mois du divorce, c'est l'impossible question de la frontière irlandaise qui bloque tout.
Le schisme des popes ukrainiens.
3 jours après l'annonce de l'indépendance de l'église orthodoxe ukrainienne, plusieurs milliers de manifestants nationalistes ont fêté l'événement à Kiev hier à l'occasion de la fête nationale. Et à ceux qui resteraient fidèles au patriarcat de Moscou, les manifestants demandent de quitter le pays. Reportage sur place, signé Claude Brouillot pour France Inter.
La foule des militants de Corpus, le corps en ukrainien, gronde à la gloire du pays. Dans les rangs de cette organisation nationaliste proche de l'armée, il n'est question que du Tomos, l'acte d'indépendance de l'église orthodoxe de l'Ukraine. Mais Sacha, 42 ans, originaire d'une petite ville à 2 heures de Kiev, en veut davantage. Lui et beaucoup d'autres demandent maintenant le départ des religieux qui sont restés fidèles à Moscou.
De mon point de vue, ils doivent partir d'Ukraine. Les popes, les archevêques fidèles à Moscou doivent partir. Ils ont fait la propagande du séparatisme. Ils sont responsables de la guerre en Ukraine. Ils font la propagande de la Russie.
Mais les épées jaunes brandies sur les drapeaux bleus des nationalistes de Corpus n'émeuvent guère Vera, 69 ans, qui a eu son compte de défilés soviétiques. Elle ne veut pas le départ des popes proches du patriarcat de Moscou, à condition, dit-elle, qu'ils ne s'occupent que de religion.
Si ce sont vraiment des croyants, que ce sont des popes qui servent Dieu, qu'ils ont une âme pure, ils peuvent rester, sinon qu'ils partent.
Hier, les monastères et les églises dépendant du patriarcat de Moscou n'ont pas été inquiétés, parfaitement protégés par les policiers et militaires ukrainiens. Kiev, Claude Brouillot, France Inter.
Ils avaient jusqu'à minuit pour quitter la zone, mais rien n'a bougé. Les djihadistes d'un des secteurs de la province d'Idlib sont bien là et ils veulent continuer à se battre contre le régime syrien. Ils avaient un mois pour évacuer combattants et armes lourdes, conformément à l'accord entre les parrains du conflit, la Russie et la Turquie. Mourir à 12 ans, roué de coups par des garçons d'une bande rivale, c'est le fait divers du week-end en Seine-Saint-Denis. La victime était originaire de Bagnolet. Elle a succombé sous les blessures infligées par une bande des Lilas, selon la police. 30% des membres des bandes en région parisienne sont des gamins de moins de 13 ans. Le maire des Lilas réclame ce matin un plan d'action pour s'attaquer au phénomène des rixes. Enfin, il était une fois Sergio Leone. Hommage à la Cinémathèque de Paris, au roi du western, Spaghetti, le bon, la brute et le truand. Pour une poignée de dollars, il était une fois la Révolution, traité
de navets par la critique à l'époque, sont devenus des classiques reconnus par les cinéphiles. Jacqueline Pétrose.
Serge Léone, c'est un destin. Un père réalisateur, une mère star du muet. Et au travers de cette exposition, on intègre la genèse de sa passion, l'étendue de sa culture, de ses inspirations, d'Homère à Chaplin, de Goldoni à Kurosawa. Et on touche du doigt son génie, les sons et la musique. Bien sûr, celle d'Ennio Morricone, ami depuis l'école, indissociable duo. Gianluca Farinelli, directeur de la Cinémathèque de Bologne.
L'image est forte, déterminante, et il y a très peu de bons. Et la musique, c'est essentiel, comme c'était essentiel à l'époque du muet. Et tellement fondamental que Sergio Leone faisait écouter la musique avant de tourner les scènes.
Leone, c'est aussi ses fascinants regards en gros plan et l'histoire. Il travaille 14 ans sur celle d'Il était une fois en Amérique.
Il raconte 1000 fois l'histoire du film, qu'il change chaque fois. C'était à ne pas croire. Parce qu'il racontait pas seulement tous les films, mais aussi tous les plans du film. Et donc, le conte durait quelques heures. Et là, on voit Homer. C'est un enfant qui veut raconter à ses copains ses histoires.
Grâce à cette exposition, même si on connaît bien les films de Sergio Leone, on sait maintenant qu'il y a forcément quelque chose à découvrir.
Il était une fois Sergio Leone à la Cinémathèque jusqu'au 27 janvier 2019. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal des inondations terribles dans l'Aude. 3 morts, des routes coupées. Le département est toujours en vigilance rouge. Les transports scolaires dans l'agglomération de Carcassonne sont suspendus.
Et on fait un point météo. Merci Florence Paracuelos.